Tout Femme, le magazine des femmes,
mais pas que,
sur Couleur FM
97.1
avec Véronique
et Valérie.
Bonjour Elodie Williams-Charles.
Bonjour.
Alors Elodie, vous êtes venue pour nous présenter votre livre que vous venez d'écrire et vous avez 31 ans, vous êtes mère d'une petite fille et vous travaillez dans les écoles primaires. Est-ce que Elodie Williams-Charles, c'est un pseudo?
Oui.
Alors racontez-nous
oui,
un peu.
Bon. Eh ben, en fait, c'est une histoire assez rapide. C'est en fait donc mon grand-père a émigré ici dans les années 40 à peu près. Mmh. Et donc il s'appelait Charles, donc Carlos en portugais.
Ouais.
Et arrivé à Lyon, la préfecture a changé le nom de famille par le nom de sa mère. Donc ça a été un gros quiproquo. Donc je me suis dit qu'on allait rétablir un petit peu
juste
les bases.
OK. D'où le nom. Alors, vous avez déjà à votre actif la rédaction de 3 livres. Le dernier dont nous allons parler, qui s'appelle « Les oubliés de la dictature », qui est un livre d'une bonne centaine de pages, c'est cela ?
Oui, 110 à peu près.
110. Et puis, vous avez aussi écrit 2 autres livres, « Le coffre au trésor du capitaine B » et « À poème d'amour, poème de toujours ». Votre livre était publié initialement aux éditions monédition.com, qui était dirigée par Florian Beliot, et que nous saluons au passage. Et malheureusement, cette édition vient juste de fermer ses portes, et je le regrette vraiment, parce
moi
qu'apparemment,
aussi.
C'est une édition qui prenait soin de ses écrivains.
Oui, tout à fait.
Et voilà, qui avait l'air équitable, et encore une fois, qui s'est fait manger par les grands de ce monde. Chapeau quand même, Florian Beliot. D'avoir osé essayer de monter cette édition. Alors, du coup, vous pourrez retrouver les livres d'Elodie sur son site Facebook, Elodie Williams-Charles. Elodie, nous avons reçu à la radio votre manuscrit. Je l'ai lu et tout de suite, ce livre m'a parlé. Alors, il m'a parlé parce que, effectivement, moi aussi, je suis issue d'une famille immigrée et que ce n'était pas du temps du Portugal. C'était les Espagnols, mais Franco et Salazar... C'était des grands copains.
C'est pas la même chose. Hein.
Donc, ça m'a profondément touchée. Il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé et que j'ai connues dans un autre pays. Donc, il commence ainsi, ce livre. À tous ceux qui ont donné, qui donnent, qui donneront leur vie pour combattre la dictature dans le monde, pour sauver la liberté, l'histoire nous a donné tort. Mais l'avenir nous donnera raison. Jolie phrase, hein ?
Oui.
Alors aujourd'hui, nous allons bien sûr discuter de l'histoire de ce livre, mais forcément, il nous emmènera sur le chemin incontournable de la problématique des dictatures, parce qu'elle est encore malheureusement d'actualité, plus qu'aujourd'hui qu'hier, comme on veut.
Oui.
Elle provoque beaucoup de dégâts.
Exactement.
Hein, elle engendre un certain nombre de drames humains. Il y a aussi un laxisme ambiant, je trouve, européen et mondial, à laisser perdurer ce type de règne et les intérêts de certains. Je pense que vous me rejoignez
oui,
sur ça.
Oui, exactement. Tout est une question d'argent.
Voilà, comme pour beaucoup de choses dans ce monde. Et puis, nous aborderons aussi quelque chose qui nous est important dans Tout Feu, Tout Femme, le métier d'écrivain en tant que femme, bien évidemment. Est-ce que l'on peut vivre ou pas de ce hobby? Voilà, ce sera le thème de l'émission. Alors, Elodie, à quel âge avez-vous commencé à écrire?
Eh bien, j'ai commencé à écrire à l'âge de 8 ans.
8 ans, c'est jeune.
Oui. Là aussi, c'est une drôle d'histoire. En fait, je regardais à l'époque un dessin animé, voilà, donc que j'aimais beaucoup.
Lequel? Je veux tout savoir.
C'était les 4 filles du Dr Marsh.
Ah oui.
Voilà.
D'accord.
Et du coup, voilà, la fin m'a absolument déplu. Et donc, j'ai décidé de le réécrire. Et comme ça, de fil en aiguille, j'ai plus arrêté.
D'accord. Vous êtes opposée à l'idée de fin de
voilà,
des auteurs.
OK.
Donc, ça a commencé comme ça, votre amour pour l'écriture. Et vous m'avez avoué avoir été, comme beaucoup d'enfants... décrété en échec scolaire parce que vous aviez du mal à maîtriser la langue française. Je crois que là, il y en a beaucoup qui vont vous rejoindre et se sentir concernés dans ce monde. Et vous êtes retrouvé broyé dans un système, dites-vous, un système scolaire français qui n'est plus adapté à aucun élève, quel qu'il soit. Donc,
à personne.
Et qu'est-ce qu'on fait de vous ensuite? Voilà, parlez-nous un petit peu de tout ça, parce que c'est quand même, c'est une réalité dans le système français actuel, on ne comprend pas trop pourquoi d'ailleurs, mais un certain nombre d'enfants, même d'adultes, hein, n'arrivent plus
Suivre.
À suivre. Mm. Donc expliquez-nous un petit peu.
Voilà. Bien en fait, tout a commencé au collège, mm-hmm. voilà. Donc,
tout ce qui était primaire, ça vous convenait, c'était ça
oui,
allait à peu
oui,
près,
tout
voilà.
ce qui était tout ce qui était primaire, mmh. ça allait. Et puis voilà, arrivé au collège, j'ai commencé à souffrir un petit peu de dysorthographie.
Ah,
voilà. Donc, faut dire aussi pour ma défense que la langue française n'est pas tout à fait facile à maîtriser.
Et vous, alors vous parlez à l'origine, vous parlez portugais à la maison, j'imagine.
Oui.
Oui, oui, donc oui. Ce qui est...
Pas avec mes parents, mais avec mes grands-parents, voilà. Oui.
Donc, on peut dire que c'est un avantage, et à la fois un avantage et un inconvénient, effectivement, parce que du coup, on a deux choses à apprendre en même temps, quoi.
Non, parce que le portugais, c'est venu assez naturel.
Vous voilà. En rendez pas
à
compte,
l'oreille,
mais à l'école,
donc, ouais. Voilà. Mm. Et à partir du collège, j'ai commencé à faire beaucoup de fautes d'orthographe, mm-hmm. etc., et donc au lieu de mettre en place du soutien ou je sais pas moi je dis n'importe quoi un programme plus adapté pour des élèves etc.
Là vous demandez beaucoup Elodie. Hein.
Ils m'ont envoyé en SECPA donc en section technique.
Ouais.
Voilà. Et dès que je suis arrivée, on m'a dit tu vas faire ça et ou ça. Voilà.
T'es vouée à ça.
Donc j'avais que trois choix. Donc du coup, je suis allée jusqu'au bout, jusqu'en 2008, je crois. Non, 2003, où j'ai passé donc mon CAP. Mm-hmm. Et à partir de là, j'ai tout lâché. Voilà.
Décroché.
Voilà, décroché complètement.
Et qu'est-ce que vous avez fait de votre vie, du coup? Parce que vous étiez jeune, vous aviez quoi, 15 ans? À peine 14, même 6e, 5e, 4e. Ça fait 3 ans de CAP, hein. 11, voilà. Ou serait-ce 14, 15 ans, quoi.
Oui, voilà, à peu près.
Ouais.
Et donc, après, je suis restée pas mal de temps chez moi. Et j'ai fini par travailler à la ville de Lyon, mmh. donc dans les cantines aussi, où j'ai débuté. Mmh. Et au niveau de ma ville... Donc, à Saint-Priest. Je me suis investie dans beaucoup d'associations, mm-hmm. La MJC, le théâtre, etc. Donc, c'est vrai que ça a apporté un plus non négligeable à mon existence, on va dire.
Ça donnait un objectif de voilà. vie, on va dire. Et puis, une rencontre sociétale aussi, hein, le fait
oui,
de rencontrer des
fait.
Gens, de pouvoir discuter et pouvoir grandir avec des gens qui vous apprennent des choses.
Voilà, tout à fait, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de... Voilà, que d'être enfermé dans des cases et de ne pas pouvoir en sortir jusqu'à que ce soit ou le système scolaire qui vous lâche ou vous qui lâchez le système scolaire.
Ouais,
voilà.
C'est la grande,
Mais le fait qu'il ne soit pas adapté, non, il n'était pas adapté à mon époque. Et travaillant dans les écoles primaires et maternelles, même si je ne suis pas dans les classes, je vois qu'il n'est toujours pas adapté et que c'est de pire en pire.
Oui, oui. Non, mais ça, on en est malheureusement tous conscients, sauf ceux qui nous dirigent et qui nous dirigeront. Donc, vous m'avez parlé, en tous les cas, vous faisiez des projets au sein du centre culturel Théo Argence, hein, à l'époque.
Oui, tout à fait, à Saint-Priest, voilà. Dirigé par Jean-Louis Sacure,
voilà.
Jusqu'à sa retraite en 2009.
Et vous avez donc rencontré des artistes et vous avez... Vous êtes mis en contact avec la compagnie marseillaise Art de Vivre, c'est ça?
Oui, en fait, cette compagnie marseillaise est venue dans les 3 ans plusieurs fois au centre culturel Théo Argence pour, dans le cadre d'un échange avec Jean-Louis Sacure. Et on a participé à beaucoup de projets, le théâtre du Mima, le spectacle des cuisines culinaires, etc. Et c'est vrai que c'est une compagnie fantastique, donc qui a aussi ses difficultés à Marseille. Mmh. Voilà. Donc qui se fait aussi un petit peu, disons...
Malmené,
voilà, par la mairie. Voilà, donc c'est un petit peu de partout pareil.
Oui, bon. Oui, non, mais ça, c'est...
Voilà, et que je soutiens à 100%.
D'accord. Alors, au cours de cette période de votre vie, Élodie, vous rencontrez des personnes que vous dites merveilleuses, intéressantes, et à partir de ce moment-là, vous publiez deux autres livres.
Oui. Bon, ça faisait déjà pas mal de temps que j'essayais de trouver un éditeur qui accepte de me publier.
Là, c'était bon courage.
Voilà.
Aide-toi, le ciel t'aidera.
Voilà, exactement. Et puis, c'est pas facile quand on débute et que, voilà, on n'a aucune notion, on ne sait pas comment ça se passe, etc.
Il faut encore une fois, donc vous êtes toujours dans le même problème, hein, encore une fois qu'on vous donne votre chance,
voilà,
qu'on croit en vous et puis qu'on vous permette d'y arriver.
Voilà, tout à fait.
C'est les trois éléments clés d'une vie, on va dire.
Exactement, oui. Et donc, du coup, j'ai publié le premier roman. Un livre de poèmes. Oui. Donc, je travaille dessus depuis l'âge de 14 ans. Donc, c'est vraiment un poème, des poèmes adolescents qui parlent un petit peu de la vie de tous les jours et puis des problèmes de société aussi. Mm-hmm. La vie comme je la voyais à cette époque. Et bizarrement, quand on relit le livre, on voit que j'étais pas très loin de. De la vie d'aujourd'hui. En fait, rien n'a changé depuis.
Mais je vous rassure, Élodie, la vie est un éternel recommencement.
Exactement. On n'apprend pas de ses erreurs, on les rappelle.
Tout à fait. On le voit avec notre monde aujourd'hui. Mmh. On répète les mêmes erreurs qu'on a toujours répétées. Donc,
encore et encore.
Voilà. Et donc, vous avez aussi, pendant plusieurs années, été au Salon de la Poésie de Paris, au Salon du Livre
aussi.
Oui,
tout à fait. J'ai publié le livre, donc Un poème d'amour, poème de toujours, qui est passé à peu près inaperçu, on va dire. Et j'ai commencé à démarcher plusieurs salons, etc. Et le Salon du Livre de Paris... donc c'était un petit salon organisé par une association qui maintenant n'existe plus non plus. Voilà.
Feu les éditions, voilà. Feu les assos.
Donc j'ai passé 3 ans une fois par an au mois de septembre là-bas, et c'est vrai que j'ai fait là aussi des rencontres merveilleuses avec des poètes, des gens qui m'écoutaient.
Vous avez touché de près le monde littéraire.
Voilà.
Vous êtes introduite dans ce monde.
Voilà. Et puis, c'est surtout que j'étais écoutée.
Considérée.
Considérée. Plus que je ne l'étais par le monde, on va dire, le grand monde littéraire. Mmh. Voilà. Pour qui un écrivain ne fait aucune faute de frappe, ni aucune faute d'orthographe. Et c'est d'ailleurs grâce à une de ces soirées du Festival de Poésie que je me suis retrouvée embarquée dans l'histoire de 2010.
Alors, on va parler de cette histoire de 2010, mais avant d'y arriver, on va faire une petite pause musicale. Et qu'est-ce que vous nous proposez pour cette première pause musicale ?
Eh bien, je propose la chanson d'Amalia Rodriguez qui s'appelle « Lisbonne ». Donc, qui pour moi retrace tout à fait les faits qui se sont passés au Portugal en 1932, sur le port de Lisbonne, et elle en parle merveilleusement, même si à mon avis, elle n'a jamais su ce qui s'était réellement passé.
Mais bon. Ben écoutez, mieux vaut dire les choses même si on ne les a pas, on n'en est pas conscient, mais au moins c'est dit. On écoute, on fait cette petite pause avec Amalia.
Fazes em Lisboa, olhos fincados no rio, os olhos não se amarram para prender o navio. Que fazes em Lisboa, olhos fincados no rio. O barco que ontem partiu, partiu e não volta mais. Chora lágrimas de pedra em cada esquina do cais. O barco que ontem partiu, partiu e não volta mais. Lisboa, velha Lisboa, mãe pobre à beira do rio, seja o cheiro dos meus ombros agasalho do teu frio. Lisboa, velha Lisboa, mãe pobre à beira do rio. Alors,
Élodie, on vient d'écouter Amalia, Lisbonne. Vous nous disiez juste avant cette interruption musicale qu'en 2010, changea complètement votre vie. Et là, vous commencez l'enquête qui allait mettre au jour l'un des plus horribles secrets de la vieille Europe. J'aurais tendance à dire l'un des... Ouais, c'est surtout l'un des, parce qu'ils sont quand même multiples.
Oui, ils sont vachement nombreux. Oui.
Mais en tous les cas, pour le peuple portugais.
Voilà.
Racontez-nous un petit peu.
Eh bien, tout à fait. En fait, en 2010, je me suis fait aborder à la sortie d'un studio. Mmh. Par cet homme qui savait où je pouvais trouver ce que je voulais.
C'est-à-dire
donc
que...
sur le coup, j'ai pas compris.
Mais je m'excuse, mais pour nos auditeurs, vous cherchiez quelque chose ou initialement?
Du tout. J'étais là, je sortais du studio.
D'accord.
De ma soirée, donc à Paris, c'est connu que voilà, on fait de drôles de rencontres. Ouais. Mais je ne sais pas pourquoi, je l'ai suivi.
D'accord.
Je l'ai suivi. C'était de la conscience, ou je ne sais pas.
Un
pressentiment. Voilà. Voilà. Mais quelque chose me poussait comme ça à le suivre. Peut-être que j'étais intriguée. Voilà. Et puis, il faut dire que ma vie m'ennuie un petit peu. Donc, voilà.
C'est sûr que quand on ne fait pas ce qu'on veut, on... Les journées sont longues.
Et voilà, donc du coup, quand il m'a dit ça, je l'ai suivi. Mm-hmm. Donc jusqu'à une cave qui se trouvait pas très loin. Et c'est là, en fait, où j'ai découvert un monde, un marché culturel sauvage, comme on les appelle.
Tiens donc.
En fait, c'était des tables avec dessus des livres qui m'ont semblé vieux. D'autres pas trop, des inédits, enfin voilà.
Des
plusieurs...
livres qui circulaient sous le manteau, comme
voilà,
on dit.
Des livres noirs. Moi, d'accord. J'appelais ça des livres noirs. Et donc, le temps que cet homme aille tout au fond de la pièce, du coup, je me suis mis à regarder et mon attention avait été attirée par un livre assez jauni, avec une cape assez vieille, où il était marqué YC. Mmh. Le domaine des Milay, donc Milay en anglais, publié par la maison d'édition des écrivains de Cambridge à Lisbonne en 1932.
Oui.
Voilà. Et sur ce, je vois l'homme qui revient. Et donc, moi, je m'en fuis en courant, quoi.
Voilà. Pourquoi parce que...
Je sais pas, ça faisait peur. Je savais pas où j'avais mis les pieds.
Mais vous l'avez feuilleté un petit peu, ce livre?
Non, et c'est mon plus grand regret.
Ah, mais vous avez juste vu la...
Juste la cape, oui, parce que c'est quand même assez réglementé, hein, on ne touche pas.
Okay. Donc vous avez vu ce livre et vous êtes partie.
Voilà, je suis partie parce que je ne sais pas, peut-être ça m'avait ramenée à la réalité. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Allez,
d'accord. Pas.
Comme quoi, il n'y a vraiment qu'à Paris qui peut arriver des choses pareilles. Et du coup, une fois que je suis rentrée sur Lyon, ça m'intriguait quand même. Donc, j'ai commencé à chercher. Je me suis rendu compte qu'en 1932, il y avait pratiquement aucun écrivain au Portugal publié, contre environ 50% en plus en 1900, à partir de 1929-22. Voilà, donc de 22 à 29, on avait des écrivains. À partir de 29-32, plus rien.
Ouais, on se demande pourquoi.
Voilà, à part Pessoa, on n'avait plus rien. Alors forcément, j'ai voulu en savoir plus. J'ai contacté les bibliothèques, j'ai contacté les archives, j'ai contacté les consulats. Bon, tout le monde m'a fermé la porte au nez, bien sûr.
Parce que vous n'avez jamais retrouvé ce monsieur, vous n'avez jamais retrouvé cette cave.
La cave...
Il ne vous a pas recontacté, ce monsieur, finalement?
Non, mais pour moi, à mon avis, il avait dû me confondre avec... voilà, avec j'avais dû faire quelque chose qui avait fait en sorte qu'il me confonde avec quelqu'un d'autre.
D'accord.
Voilà. Parce que c'est vraiment un monde très secret, un peu comme on les voit dans les films, quoi. Ils nous voient, on ne donne pas nos noms, ni rien. On se contacte de façon assez bizarre, on va dire.
D'accord.
Donc voilà.
Donc vous mettez à faire cette enquête
voilà,
acharnée.
Voilà, je me mets à faire cette enquête acharnée pendant plus de deux ans et demi. Mm-hmm. Et je vais nulle part. Voilà. J'ai beau démarcher toutes les maisons, toutes les librairies anciennes au Portugal, justement en 2010, la même année. Et tout le monde me disait, non, c'est rien, c'est des bêtises, voilà.
Personne ne connaît ce livre.
Voilà, personne ne connaît, ça n'existe pas, c'est la maison d'édition non plus, c'était point, c'était carré, c'était au revoir. Et donc j'étais juste au bord de la rivière de Porto, qu'on appelle la Ribeira. Et donc j'ai à ce moment-là un autre homme qui est venu me voir et qui m'a dit qu'il avait le journal de l'homme que je cherchais, et donc qui me le vendait pour une somme faramineuse que j'avais pas.
Alors par contre, là, du coup, c'était ciblé, ce monsieur, il savait que vous étiez
voilà,
à la recherche de documents.
Voilà, il savait que je traînais dans le coin.
Une Française, voilà. une franco-portugaise cherchait ce manuel, et donc c'est lui qui est venu directement
voilà,
vous
mais
voir.
Généralement, ça se passe comme ça, c'est plus eux qui viennent à vous que
vous qui allez à lui.
Qui allez à eux, quoi, oui. Et il m'a demandé de l'argent. Donc, je n'avais pas, parce que la somme qu'il demandait, si je l'avais, bah merci. Je serais bien dans la vie. Et donc, du coup, j'ai réussi à négocier 200 euros pour qu'il me laisse le lire une après-midi. Donc, le rendez-vous a été pris le surlendemain. On s'est assis, il m'a laissé lire le livre, voilà. Et j'ai été vraiment effarée parce que j'ai trouvé. Et donc là aussi, j'ai fermé le livre, je l'ai rendu, et puis je suis partie. Et pendant deux semaines, j'étais traumatisée par ce qui était dans ce livre, quoi.
Alors en fait, on peut quand même constater que votre histoire, elle est vue de façon très hasardeuse et très romanesque.
Voilà, c'est vraiment...
Et en fait, c'est la rencontre entre vous et un homme étrange sur un personnage qui force le respect dans le livre, mais qui a aussi sa part d'ombre et de mystère. Et suite à cette rencontre, vous avez mené donc cette enquête, découvert l'histoire d'un homme et ses secrets de famille, de son village, de son pays au Portugal. Et qu'est-ce que vous avez pu finalement sortir de ce rendez-vous? Parce que vous avez retenu tout ce que vous aviez lu dans le livre.
Oui, bizarrement, c'est inexplicable, mais c'est resté, chaque mot est resté gravé, relisais à nouveau.
D'accord, c'est impressionnant quand même, ça aussi.
Oui, parce que pourtant j'ai pas vraiment de mémoire, mais c'est vrai que cette histoire, ça, tous les détails, je...
Et ouais, donc cette histoire,
grâce au CA, je l'ai bien retenue pour la retranscrire.
D'accord. Et parlez-nous un petit peu de ce monsieur. Vous l'appelez YC dans le livre. Hein. Il a un secret, mais sans nous le révéler, dites-nous un petit peu plus sur cette histoire d'YC.
Eh bien, en fait, YC, c'est ses initiales. Mm-hmm. Donc, j'ai jamais réussi à retrouver ce monsieur.
Le nom réel de ce
monsieur.
Voilà, le nom
réel
été,
de ce monsieur. Donc j'avais YC, mais bon, il n'y en a pas beaucoup à l'état civil.
Dans le livre, on voit que c'est en fait un pseudonyme.
Voilà,
aussi.
C'est un pseudonyme qu'il avait mis pour protéger
sa famille.
Voilà, sa famille et puis aussi son secret.
Son anonymat.
Voilà, son anonymat. Ouais. Parce qu'on découvre au fur et à mesure du livre que son arrière-grand-père était venu de Londres, mm-hmm. originaire de la ville de Shakespeare. Stratford Forever, mm-hmm. j'espère que je prononce bien.
Oui.
Et voilà, et qu'il a à cœur de protéger ce secret, jusqu'à ce que, voilà, un jour il tombe malade et puis il se rend compte que, voilà, il faut que ça sorte. Donc il écrit un livre, donc sur cette histoire familiale, mm-hmm. et il le révèle à son fils, donc son fils aîné. Ce qui, malheureusement, va le perdre.
Alors,
il n'aura pas de cesse de protéger ce secret, vraiment, jusqu'à la fin de sa vie.
D'accord. Et même dans le livre, ce secret...
On n'en sait pas plus. C'est le problème.
Voilà, je suis restée sur ma faim. Et je me suis dit, bon, bah, d'accord, mais là, elle nous emmène où ? Elle nous laisse avec des points de suspension. Donc, ce qu'on peut dire, c'est aux auditeurs, si vous connaissez la suite de cette histoire, parce qu'ici, il faut le savoir, c'est qu'à Bourgoin-Jallieu, il y a une grosse communauté portugaise.
Oui.
Donc, je fais appel à eux.
Au revoir.
Si jamais, vous pouvez leur dire quelques mots en portugais, allez-y, je vous en prie. Si vous leur souhaitez la bienvenue, si vous voulez.
Bienvenue aqui.
Voilà. Et bien, nos amis portugais, si vous avez des informations sur cette histoire, sur cette YC, si ça vous dit quelque chose en entendant parler, n'hésitez pas à me contacter à Couleur FM et je passerai bien sûr les renseignements à Élodie. Alors, Élodie, c'est un pan de l'histoire, un pan terrible de l'histoire du Portugal, hein, des pans qu'on aimerait bien ne plus parler, mais c'est pas possible de se taire. Vous les évoquez par le biais de cette histoire et comme tout ce qui touche au passé, c'est pas très très reluisant pour le pays, pour le Portugal, pour les Portugais. J'imagine que vous avez pris des risques dans tout ça, en faisant cette enquête. Quelles ont été les conséquences pour vous de cet acharnement à découvrir la vérité ? Parce qu'il me semble que vous m'avez dit que vous aviez effectivement eu des ennuis.
Oui, même beaucoup, c'est le cas de le dire.
Alors expliquez-nous un petit peu.
Déjà, comme vous l'avez dit, c'est pas très glorieux, seulement que ce soit pour le pays ou même pour la vieille Europe. Mm-hmm. Donc, du fait qu'ils ont agi de façon discutable. Et
on va parler quand même un petit peu de parce qu'on est obligé de donner aussi envie un petit peu aux lecteurs, parce que là on est très subjectif, on ne sait pas trop quoi on parle. C'est un massacre de masse.
Voilà, c'est un massacre de masse qui a eu lieu donc sur le port de Lisbonne, mm-hmm. lors d'une tentative de coup d'État. Mené d'ailleurs par YC, John Langlais et Ilavio Lorca. Et donc un massacre caché, c'est-à-dire vers minuit, ce drama a commencé. Et apparemment, dès les premières lueurs du jour, il n'y avait plus aucune trace sur le port de Lisbonne.
Et YC a été témoin de tout ça.
Voilà, exactement.
Et il en a même été la victime, parce qu'il a été projeté dans l'eau, lié.
Oui, il avait été arrêté ce jour-là un peu plus loin, vers chez lui, en aidant justement d'autres personnes à fuir, d'autres artistes à fuir le pays.
Oui, parce qu'en fait, excuse-moi, j'essaie de resituer. En fait, le problème de Salazar, c'était qu'il n'aimait pas les intellectuels, les artistes. C'était des gens qui le gênaient. Parce
il me semble qu'aucun dictateur n'aime les hommes de culture.
Et non, parce que ça veut dire qu'on pense et ça veut dire qu'on se rend compte de ce qu'ils font. Donc forcément, le bas blesse à ce moment-là. Et donc, ce monsieur a été arrêté. Et à un moment donné, on a voulu l'éliminer.
Voilà, à la façon de la police d'État.
Ouais.
Donc, on lui a accroché pieds et poings liés une pierre dont ils disent qu'ils étaient deux à la portée, donc voilà. Et il a été jeté de la falaise de Sagres, qui est l'une, on l'appelle le gouffre du diable.
Donc, il porte bien son nom.
Voilà, donc les vagues sont d'une intensité qu'on se retrouve broyé entre la roche.
D'accord.
D'ailleurs, Je perçois mal vers la tête qu'il y a beaucoup de victimes qui se trouvent encore...
au fond de cette eau.
Voilà, au fond de cette eau. Et donc là, par contre, se produit donc un miracle, parce qu'on le jette, dans la mer, on le croit mort, et finalement, il survit.
Il survit.
C'est ça que je trouve aussi fascinant chez lui, c'est qu'il a frôlé la mort tellement de fois, mais voilà, il est allé mourir de vieillesse quelque part à Londres.
Mais vous savez, y a une chose que j'ai remarquée. Parce que par expérience familiale et par ce que j'ai pu lire aussi et des témoignages que j'ai vus dans d'autres situations de guerre, l'homme a une force exceptionnelle lorsqu'il est dans des situations extrêmes. Et quand j'entendais moi mon grand-père me raconter, parce qu'il a été arrêté pendant 10 ans dans les geôles franquistes, pour opposition à Franco, quand j'entendais comment il me racontait ce que ces gens lui avaient fait, je me demandais comment il avait fait pour survivre à tout ça. Quand j'entends par exemple Simone Veil ou d'autres personnes, je me demande aussi comment est-ce que ces gens-là ont fait pour sortir de l'enfer. Donc on a quand même une force extraordinaire au fond de nous qui nous pousse quand même à lutter.
Oui, oui, tout à fait.
Pour d'une part pour s'en sortir, mais aussi pour dire après ce qui s'est passé. Et cet homme-là, donc, il a été récupéré. À quel endroit par un bateau dans
la
mer,
je crois.
Il a été
récupéré par un bateau de pêche français, donc dans la mer espagnole, sur les eaux espagnoles, on va dire, entre les deux.
Oui. Et donc, il a...
Il a dû dériver pendant des jours et des jours. Et il s'est retrouvé...
dans un hôpital.
Voilà, il se retrouve en France, à Paris. Voilà. Et il se réveille des années plus tard, donc en pleine Seconde Guerre mondiale. Sous l'occupation, voilà, la Seconde Guerre mondiale.
Une succession quand même, c'est pas banal de se retrouver dans deux situations comme celle-là.
Voilà, exactement.
Et donc là, il se retrouve encore une fois confronté à ces gens qu'il trahissent, parce que sa famille l'a trahi, ses amis l'ont trahi au Portugal, comme souvent c'est dans les guerres civiles. Et puis là, du coup, il se retrouve encore une fois face à des gens qui vont encore le trahir.
Oui, tout à fait, tout à fait. Il avait beaucoup d'appui donc au Portugal, notamment Rey et Gus. Donc c'était deux frères d'origine italienne qui tenaient une maison d'édition ici à Paris, en France. Et donc il faisait vraiment une grande confiance à Rey, surtout, qu'il appelait Rey, donc Raymond. Et il a même été jusqu'à lui confier son secret en lui envoyant une lettre et en lui demandant de dire ce qui s'était passé, si des fois...
Protéger son secret, voilà, et de le révéler.
Et de révéler ce qui s'était passé au Portugal si, voilà, des fois leur révolution échouait.
Parce que ce massacre, en fait, ce qu'il faut dire aux auditeurs, c'est que ce massacre n'a jamais été révélé.
Jamais.
Il a été étouffé, personne n'en parle, il a existé. Il a été fait, on a tué ces centaines de gens comme ça, comme des chiens dans la mer. Mais personne n'en a jamais parlé officiellement
au Portugal. On a détruit tout état civil, a détruit toute œuvre, on a brûlé des milliers de livres, des milliers de toiles.
Comme en Espagne.
Détruit des milliers de partitions, quoi, fermé des tonnes de théâtres, etc. Et plus rien n'a subsisté.
On a muselé tout le monde.
Voilà.
Élodie, on va faire une pause musicale, si vous le voulez bien. Vous nous proposez quoi en seconde pause musicale?
Eh bien, je vais vous proposer le chant révolutionnaire portugais, qui s'appelle Grandol, Vila Morena, que sûrement beaucoup
connaissent ici.
Beaucoup connaissent.
Ok. Eh bien, on écoute. Merci.
A quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia. Che Guevara,
Elodie, vous allez être gentille avec moi, vous allez me redonner le nom de la musique que l'on vient d'écouter, parce que moi, je ne parle pas portugais.
Oui, le chant, il s'appelle « Grande la ville morena » et ça a été le chant révolutionnaire chanté au Portugal lors de la libération, le 24 avril.
Merci, Elodie, je suis sauvée. Alors, Elodie, on continue notre...
24, périple. Non, 25 d'ailleurs, je dis n'importe avril. Quoi. C'était le 25.
C'est pas moi qui vais pouvoir 25 vous avril. Sur ce sujet-là.
Voilà.
Dans votre livre, Elodie, vous évoquez l'intérêt malsain d'une maison d'édition française. Ça, on regrette encore qu'une fois les Français, pendant la Seconde Guerre mondiale, aient été une fois de plus impliqués dans ce genre de choses. Et vous dites qu'elle a profité des horreurs qui se passaient au Portugal pour s'enrichir. C'est étonnant. Ce genre d'attitude n'est pas isolée. Malheureusement, en temps de guerre, ça, on le sait tous. Parlez-nous un petit peu plus de cette histoire.
Eh bien, en fait, ces deux frères se sont vus confisquer donc leur maison d'édition par les nazis.
Par la Gestapo, ouais.
Voilà. Et donc, pendant ce temps-là, YC, qui les cherchait désespérément, a fui un peu à travers le monde. Il est passé en Suisse, puis a fini par passer aux États-Unis, etc. Et à peine a-t-il appris la libération, qui revient pour retrouver ses amis. Et il les retrouve donc dans la maison d'édition qu'ils ont réussi à récupérer. Et donc c'est là où il va les voir tout content.
Cette maison d'édition qui initialement lui appartenait aussi, c'est ça ? Ou appartenait aux
non.
deux frères.
Elle non, appartenait, non. Aux, elle deux appartenait frères,
voilà.
aux deux frères.
Voilà. Mais ils avaient voilà. été destitués de cette.
Voilà, destitués voilà. Pendant mmh. la. Mmh. Voilà,
la seconde
donc,
guerre. Okay.
Pendant la seconde
donc
guerre.
Donc il la récupère.
Voilà. Les deux frères l'ont récupéré. Moi, je les appelle les Italiens, mais bon. Les Italiens l'ont récupéré. Et quand il revient, en fait, ils sont tous effarés de le voir, puisque la police de l'État était venue les voir juste après la fin de la guerre aussi, pour leur demander de retrouver la trace de John Langley, pour faire disparaître sa maison d'édition à tout prix. Parce que c'était vraiment, si on retrouvait la maison d'édition, on allait retrouver d'autres livres, etc. Et c'était quelque chose qui ne voulait pas. Donc ces deux frères se sont associés à eux. Ils ont récupéré tous les biens de John, donc qui était aussi un ami à eux. Et ils s'en sont servis pour remettre à flot leur maison d'édition qui battait de l'aile depuis la Seconde Guerre. Et ils ont aussi hérité de beaucoup de biens, notamment des maisons et de l'argent, puisque c'était un héritier assez aisé. Et il avait aussi créé une grande fortune personnelle. Mais heureusement pour tout le monde, il avait été plus intelligent que les autres. Donc ça fait que beaucoup de manuscrits sont aujourd'hui, on ne sait où, quelque part, mais on ne sait où.
Ah,
voilà. Okay. Il avait sauvegardé tous ses livres dans une maison d'édition, dans une banque à Londres, et en avait donné les coordonnées à son ami, donc à qui il avait légué la maison d'édition. Voilà. Avant que cette tragédie n'arrive, John Langley avait donné à YC sa maison d'édition au cas où un malheur arriverait, et lui avait donné l'adresse d'un coffre-fort en Suisse, la Suisse fidèle à elle-même. Et à partir de là, il a pu retrouver les livres inédits. Sauf qu'il est passé avant la PIVD, ce qui fut sa chance.
Là.
Voilà. La PIVD, la police de vigilance de l'État.
D'accord. Bon, encore une fois, donc les manuels sont partis, on ne sait où. Alors, vous dites aussi, Élodie, que vous êtes très en colère contre la France et vous refusez même de voter parce que vous savez que la France a fermé les yeux sur ces crimes, alors que, comme Londres, le gouvernement était au courant. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour faire reconnaître ce crime. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?
Oui. Donc dès que le livre a été à peu près sorti, je me suis dit qu'il était là. J'y ai vu comment dire.
D'ailleurs, votre livre à vous, voilà, quand vous l'avez écrit.
Quand mon livre est sorti, a été publié en version numérique.
Vous exposez
là aussi, il faut remercier
massacre.
Florian, parce que sans lui, rien n'aurait été
merci
possible.
Merci Florian.
Donc je me suis dit, j'ai un support maintenant. Donc j'ai commencé à contacter l'Élysée, l'Union européenne, l'ONU, le tribunal des droits de l'homme de Strasbourg, les tribunaux de La Haye aussi, et plusieurs consulats, ambassades, pour essayer de trouver quelqu'un qui veuille bien m'aider à faire reconnaître ces crimes, pour que les oubliés ne soient plus des oubliés. Mais malheureusement, là aussi, toutes ces portes se sont fermées.
C'est un peu comme l'Arménie, c'était pas un massacre.
Exactement.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Et il n'avait rien à voir là-dedans.
Bah oui, bien sûr. Voilà.
J'ai une lettre d'ailleurs de l'Élysée signée par le président. Qui est François Hollande.
Ah, François Hollande.
Oui, oui.
Ça en rajoute pour lui. Allez, hop. En une de plus, un charrette. Et donc.
Et du coup, il me répond, bon, lui ou un de ses secrétaires,
ça
ne sera jamais. Et il me répond qu'il ne prendra pas parti sur des faits qui ne sont que de moi, pas avérés. Voilà.
Qui sont vos propos,
voilà,
qui ne
de
sont
mes
que
propos,
des rapports,
voilà,
des choses rapportées sans preuve flagrante.
Voilà, qu'il ne prendra pas position sur mes simples dires.
Mais vous avez déjà rencontré des gens là-bas au Portugal qui étaient au courant de ce... Parce que quand on va sur les lieux, des fois les langues se délient un petit peu. Est-ce que vous avez déjà rencontré des gens qui vous ont parlé de ce massacre?
Non, non.
Donc
non,
en fait,
non.
Ça reste pourtant, vraiment juste sur...
Pourtant, j'ai vraiment interrogé chez beaucoup de gens.
D'anciens aussi,
fait, ouais. Oui, d'anciens surtout. Je me suis fait traiter de menteuse plusieurs fois.
D'accord.
Même beaucoup. Et voilà, mais non...
Vous vous souvenez combien de personnes à peu près il y a eu de massacrées à cette époque-là, cette date-là? Des centaines?
Je sais qu'il devait être au moins 1000.
D'accord.
1000.
En fait, c'est voilà. Un genre de
charnier. Il venait de tout le Portugal, minimum 1000. Mmh. Mais enfin, là aussi, on n'aura jamais les chiffres exacts. Mmh. Entre ceux qui avaient déjà été tués et ceux qui...
Ça, c'est comme la guerre d'Espagne. Le jour où la boîte de Pandore va s'ouvrir, ça va faire mal à tout le monde et tout le monde pourra baisser son pantalon parce que là, pour le coup, on ne pourra plus dire qu'on ne savait pas.
Voilà, exactement.
Voilà, donc bon...
Sachant que là, surtout, l'Union européenne m'a aussi répondu qu'il n'était pas habilité à s'occuper de ce sujet.
Oui, mais c'est ça. Le problème, c'est qu'on se demande donc, qui est habilité
voilà.
À quoi.
Hein. Bon, c'est la quand nouvelle même Union européenne fait quand même partie de la vieille.
Oui, alors moi, je dirais, pour vous et pour tous ces jeunes aujourd'hui, allez voter parce que c'est quand même très important. Quoi qu'il en soit, le vote, c'est quand même un droit. On s'est battu pour ça et c'est quand même, même si on est très en colère contre la France et contre tout un tas d'institutions, il faut voter, c'est super important. Moi, je le dirais jamais assez parce que nos grands-parents, les miens, les vôtres aussi, se sont battus et ont risqué leur vie et même ont été... comment dirais-je, torturé, hein. Mon grand-père était torturé pour ça, donc je crois que c'est vraiment un droit fondamental qu'on a et il faut l'utiliser. Faites-moi plaisir, Elodie, allez voter, votez ce que vous voulez, mais votez. Alors, vous souhaitez aussi, Elodie, évoquer le fait que la vieille Europe a caché cette répression culturelle. Qu'est-ce que vous entendez par là quand vous me dites ça? Parce que bon, tout le monde se défausse, tout le monde dit, bah, nous on n'était pas au courant, nous on sait pas, il n'y a rien écrit, c'est
voilà,
ça
personne ne sait rien. Donc, en fait, moi, ce que je reproche surtout à la vieille Europe, c'est qu'avant que ces massacres aient lieu, il y a eu beaucoup d'expulsions d'étrangers. C'est-à-dire, à l'époque, le Portugal était une ville voilà, où il y avait des Portugais, des Italiens, des Anglais. Voilà, c'était tout un mélange. Et quand Salazar est devenu ministre de l'économie, les expulsions ont commencé. Et justement, John Langlais, donc qui était anglais,
ça rappelle un peu un certain Monsieur Hitler.
Oui, voilà, tout à fait. Et ils ont, il a été le premier à être expulsé. Mmh. Et donc, à peine arrivé à Londres, il commence par ameuter son père qui, c'est juste une supposition, mais il devait quand même avoir une place assez importante à Londres. Mmh. Donc, je sais pas s'il était patron ou voilà, je sais pas le poste qu'il occupait au juste.
Parce que c'est ce père justement qui est le détonateur de tout en fait, parce qu'on sait qu'il était anglais, qu'il avait un poste important quelque part, mais on sait même pas qui il était et en fait voilà. On saura jamais qui il est.
Non, moi je crois que j'ai fait une croix sur le fait qu'on ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé, sauf compliqué. Miracle. Et donc il est allé voir son père a refusé de l'écouter, il est allé voir, dans le livre ils disent la chambre des lords, mais à ne pas confondre avec le gouvernement, parce qu'en fait j'ai appris que c'était une confrérie donc, qui existait à l'époque, à l'époque à Londres, et donc là, vu le poste de son père, il a réussi à y rentrer. Là aussi, on n'a pas voulu l'aider. Il est allé en France, on n'a pas voulu l'écouter. Il est allé rejoindre donc Ray, là aussi, les frères n'ont pas bougé. Et du coup, il n'a pas eu d'autre choix, lui, qui n'était même pas portugais, de retourner lui-même au Portugal pour retrouver ses amis et essayer de réagir.
Il n'est jamais retourné. Il n'a jamais pu retourner là-bas.
Au Portugal, si.
Si, quand même. Ouais,
John Langlais a été le seul à traverser, d'ailleurs, je crois qu'il a traversé par l'Espagne pour réussir à retourner discrètement au Portugal. Mm. Comme quand on l'avait expulsé, lui, il aimait tellement ce pays qu'il a absolument voulu revenir. Et il en est mort, voilà.
Alors, Elodie, qu'est-ce que c'est le but ultime de l'écriture de ce livre, en fait, pour vous ?
Que ces crimes soient reconnus. Et voilà. Et qu'ils apprennent peut-être par ce livre qu'il faudrait arrêter de répéter encore et encore les mêmes erreurs.
Oui, là, ça, c'est carrément...
Voilà, parce que la plupart des choses qui sont dites dans ce livre, on voit qu'elles se sont, depuis qu'il a été écrit, se produisent, seront reproduites, etc., etc.
Donc, on redit bien, hein, s'il y a des gens qui sont portugais, qui sont pas très loin de Lisbonne et qui ont eu... qui ont entendu parler de ce massacre...
Ou de Lisbonne, d'Aveiro, si vous avez des informations...
De ce massacre d'à peu près 1000 personnes qui étaient tous des artistes, des écrivains, etc. Si vous avez des informations, donnez-nous-les. Ça sera vraiment quelque chose pour la postérité, tout au moins.
Voilà.
On va faire une petite pause musicale. Oui. Vous nous proposez quoi cette fois-ci hein?
Eh bien, écoutez, je vous propose Uma Gaivota. Là aussi, c'était un des chants révolutionnaires chanté avant le 24, le 25 avril.
Entendu. Merci, Elodie.
Uma Gaivota voava, voava.
Voilà, c'était. Vous nous avez fait écouter, vous disiez.
Uma Gaivota.
Voilà. Oui, voilà. Je veux pas
moi, c'est, pour moi, s'il y avait eu un chant révolutionnaire en 1932, ça aurait été celui-là.
D'accord. Alors, vous vouliez nous donner une petite précision concernant la maison d'édition française, parce que tout comme vous n'avez jamais su qui était YC, vous ne savez pas non plus quelle était cette maison d'édition française qui a volé tout cela.
Oui, tout à fait. Pourtant, c'est pas faute de l'avoir cherché. Donc, j'en suis venue même à soupçonner toutes les maisons d'édition françaises créées vers 1920, à commencer forcément par les éditions Gallimard, Albin Michel, etc. Et ça aussi, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, c'était de les retrouver, même si peut-être que la maison d'édition à ce jour n'existe plus, peut-être qu'elle a été broyée aussi, d'ailleurs bien fait pour eux. Méchant à dire, mais bien fait pour eux.
Est-ce que vous avez imaginé un jour que ce livre que vous avez lu pouvait n'être qu'une histoire ? Ou est-ce que pour vous, c'était vraiment une réalité ? Parce que, puisque c'était un livre que vous avez trouvé dans une cave, peut-être que certains pourront vous dire, je me fais l'avocat du diable, pourraient vous dire, en fait, c'était peut-être tout simplement un roman qu'elle a lu ou un...
Oui, je me suis posé la question aussi, parce que en tant qu'écrivain, forcément, et j'en suis arrivée à la conclusion que les horreurs qui sont décrites dans ce livre, personne n'aurait pu les inventer, même la personne la plus tordue du monde.
D'accord.
Voilà, et puis j'ai aussi un pressentiment, on va dire. Après tout, je me suis toujours fiée à mon intuition.
Oui.
Voilà, on peut dire que ça...
Ça corrobore un petit peu.
Voilà, ça corrobore. Par exemple, j'ai envoyé, juste avant qu'il ne soit publié, j'avais envoyé mon livre aux éditions Gallimard. Mm-hmm. Et donc, j'ai reçu un appel. Je pensais que c'était une bonne nouvelle. Mais en fait, apparemment, c'était un assistant de M. Gallimard qui me disait que ce livre ne sortirait jamais puisque c'était un ramassis d'imbécilité.
Voilà, ça s'est fait. Alors écoutez, on en pense ce qu'on veut, en tous les cas, il est intéressant à lire, c'est vrai ou c'est pas vrai, malheureusement...
on ne le saura jamais, peut-être un jour.
Néanmoins, ça n'est pas inintéressant de lire ce livre et puis de se poser des bonnes questions. De toute façon, sur, en règle générale, la dictature, qu'est-ce qu'elle apporte, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle produit ?
Des intérêts commerciaux et des morts.
Voilà. Et à cet égard, au moins, ça a le mérite de nous faire... toucher des points sensibles. Alors, on va passer maintenant un petit peu, parce qu'on est quand même dans Tout Feu, Tout Femme, une émission pour les femmes, et donc on va parler un petit peu du métier d'écrivain. Est-ce que vous trouvez que le métier d'écrivain est considéré ?
Non.
Est-ce que vous pensez que...
Enfin, je trouve qu'un homme qui se dit écrivain, qui est écrivain, il sera toujours beaucoup plus accepté qu'une femme qui dit lettres. Voilà.
Pourquoi ? C'est une impression aussi ?
Non, c'est du vécu.
C'est du vécu. Parce qu'on vous a dit des choses, on vous a...
Eh bien, je sais que plusieurs fois, notamment lors du salon du livre de Paris, où je vais régulièrement depuis 2-3 ans à peu près, le vécu. On va, par exemple, moi j'étais en train de parler avec un éditeur dont je ne sais plus le nom, là maintenant il m'échappe. Et il y a 2-3 hommes qui sont arrivés, et puis tout de suite on vous a
évincé.
Voilà, on m'a évincé, on m'a mis à l'écart, et voilà. C'est vrai qu'il y a très peu de femmes encore qui arrivent à percer. Et qui ne sont pas publiés par de grandes maisons d'édition.
On est vraiment dans une société de macho. Quoi.
Voilà, on est vraiment dans une société de macho.
D'hommes dominants.
Où si on veut se faire accepter, il ne faut pas non plus trop dire ce qu'on pense et sachez pas faire. Donc.
Aller dans la vérité, c'est toujours gênant. Et effectivement, les femmes sont un petit peu plus courageuses que les hommes.
On se sent toujours mis à l'écart, en fait. On vous écoute pas, on vous considère pas. Déjà, écrivain n'est pas considéré comme
un
métier. Ça
n'est pas un métier,
comme
déjà.
L'a dit ma conseillère d'orientation.
D'accord. Alors, c'est en plus
il y a des années.
Donc, en fait, peut juste pour vous rester qu'un hobby, quoi, en fait, si j'ai bien compris.
Non, 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 parce que j'ai bien l'intention de percer tôt ou tard, avec l'aide des maisons d'édition ou pas.
Ou pas. Bien. La bonne nouvelle, c'est que vous m'avez dit lancer aujourd'hui votre livre en tant qu'éditeur indépendant et puis dans les prochains jours, vous avez l'intention de créer une maison d'édition. Alors pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que cette aventure et puis comment s'appellera cette maison d'édition ?
Eh bien, en fait, je me suis rendu compte qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même.
Ça, c'est une réalité.
Voilà. Et puisque les maisons d'édition refusent de me faire confiance... Eh bien, je vais me faire confiance à moi-même. Donc, avec l'aide notamment de plusieurs plateformes comme Kindle.
Mm-hmm. Qui est
C'est les livres numériques d'Amazon.
D'accord.
Voilà. Avec l'aide aussi de la FNAC, de Citre, etc. Mm-hmm. C'est vrai que j'ai de la chance parce que le livre numérique prend vraiment maintenant une place importante, plus que du papier, puisque déjà il n'est pas cher.
Alors moi déjà, là Élodie, oui. On ne va pas être d'accord, parce que moi je suis très papier, et j'ai lu votre livre en numérique, et j'ai souffert, Martine, c'était le premier livre numérique que je lisais, et alors là, franchement, je suis moderne pour plein de choses, mais alors ça, j'arrive pas. Moi, j'ai besoin de mon papier, mon livre papier, que je tourne, je vire, que je reprends, où je mets mes annotations, où je mets mes petits stickers. Et ça, là, vraiment, vous voyez, ça m'a manqué quand même. Mais bon, ça a le mérite d'exister.
Bah, peut-être qu'il sortira un jour en papier.
Hein. Pensez aux vieilles comme moi, Élodie. On ne peut pas les aider si vous le mettez tout en numérique quand même.
Non, mais c'est vrai que pour l'instant, il est sorti en numérique. Mais je pense que s'il n'y avait pas eu le numérique, il ne serait
pas du tout sorti.
Il n'aurait jamais
donc
vu le jour.
Ça a de l'avantage. Non, mais c'est évident que ça a un intérêt. Et donc, cette maison d'édition, elle s'appellerait...
Elle va s'appeler, donc, en hommage aux oubliés de la dictature, elle va s'appeler la maison d'édition des nouveaux écrivains de Cambridge.
D'accord. Et donc, vous allez gérer ça toute seule? Ça sera une association? Ce sera quoi?
Non, bah, je vais la gérer seule. Mm-hmm. Voilà.
Vous l'autofinancez, du coup?
Du coup, il y a... Voilà, je l'autofinance. Et ouais. Puis, après, on n'a plus qu'à attendre qu'il y ait des ventes, quoi.
D'accord. Donc voilà. Vous allez le lancer quand?
Il va sortir d'ici à janvier, le 2 janvier.
Donc sur Facebook, voilà. On pourra trouver votre sur le site.
Voilà, la maison d'édition. Et le premier livre disponible sera Les oubliés de la dictature.
La dictature, okay.
Voilà. On va essayer de faire le moins de frais possible.
Bon, eh bien, on encourage les gens à aller chercher ce livre en numérique et puis en espérant que dans quelques temps, vous nous le sortiez aussi en papier.
Oui, oui.
Mais bon, peut-être aussi que la FNAC ou autre de Citre, etc., pourra vous permettre de le sortir en papier. Ils vous ont un petit peu parlé de ce point de vue-là, non?
Non.
Et eux, ils ne vous disent pas que parce que vous êtes une femme...
Non.
Non, vous n'avez pas entendu
ça,
ce genre de...
C'est pas une remarque que j'ai eue, non. Par contre, oui, j'ai eu notamment quand je racontais mon périple à Strasbourg, où malheureusement j'ai perdu le livre de YC.
Ouais.
Pour rappel au lecteur, j'avais retrouvé la trace du livre donc, que j'avais lu à Porto,
ouais.
À Strasbourg. Mais ça allait me mettre des mois pour la retrouver. Donc du coup, je me suis fait engager dans des bateaux de croisière, donc à Strasbourg.
Mmh.
Et bizarrement, je sais pas pourquoi, mais ce monde culturel-là était beaucoup plus dangereux que ceux que j'avais connus habituellement.
Mmh.
Et donc j'ai même failli être tuée deux fois.
Sympa. Pourquoi et comment? Qu'est-ce qui s'est passé?
La première fois, c'est quand j'avais retrouvé le livre. J'ai retrouvé le livre dans un marché sauvage. Donc j'avais réussi là à le récupérer. Et je l'avais caché dans ma cabine, donc sur le 12 France. À l'époque, je travaillais pour la compagnie Croisière Europe.
Ouais, donc c'est pas qu'une illusion, vous l'avez eu en main, ce
je
livre.
L'ai, voilà, je D'accord. l'ai je l'ai eu en main deux fois.
Important et, de le dire.
Voilà. Et malheureusement, il a été volé. Et en courant derrière la personne qui
vous avait dérobé ce livre.
Qui m'avait dérobé ce livre, j'ai failli me faire tuer justement sur le même parking de cette compagnie.
D'accord.
Et une autre fois, c'était en rentrant justement dans ma cabine. Voilà, il y avait un homme qui m'attendait. Jusque là, je sais pas comment je m'en suis sortie.
Qu'est-ce qu'il vous a fait?
Il avait un couteau, il m'a pris par derrière et jusque là, je sais pas comment j'ai fait pour le pousser et rentrer dans ma chambre.
D'accord.
Surtout que j'étais assez déprimée puisque le livre avait été
volé.
Brûlé. Voilà, volé et brûlé devant mes yeux.
Ah oui, ah, la personne l'avait brûlé carrément. Oui,
devant
mes
yeux.
Donc
oui.
Ça signifie quand même bien
qu'il y avait deux personnes qui m'empêchaient de passer. Il a pris de l'essence, il a jeté le livre par terre et il l'a brûlé.
D'accord.
Parce que même encore aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent pas que ça se sache. Donc c'est que forcément, il y a une part de vérité.
Voilà, donc ça n'est pas... Voilà.
Voilà, mais je pense que si ça avait été un homme à mener cette enquête, il n'aurait pas été jusqu'au bout.
On est perspicaces, nous, les femmes, ouais, dans Tout Feu, Tout Femme. Elodie, merci en tous les cas.
Merci à vous.
Pour ces explications. Merci aussi d'avoir cherché un petit peu à découvrir un pan de l'histoire. Alors, en conclusion, on arrive là à la fin de l'émission. Merci pour ce moment que vous êtes venu passer avec nous, pour cette discussion que je trouve très intéressante et dont il me semble nous devrions parler un petit peu plus souvent sur ces sujets, parce que je trouve que le silence est insupportable, parce que les boîtes de Pandore vont s'ouvrir sur les passés de ces dictatures un jour ou l'autre, et ce jour est proche, hein, parce que effectivement les gens qui étaient de l'âge de mon grand-père ou de vos grands-parents, ils sont morts aujourd'hui, hein, donc il reste nos oncles et tantes qui sont encore très âgés et qui vont pas tarder à partir aussi. On leur donne 10 ans encore, et dans 10 ans, on pourra se permettre d'ouvrir.
Et là, petit à petit, tout disparaît. Et,
voilà, parce que les tontons, les tatas s'en vont. Et moi, j'ai remarqué que dans cette société de gens qui ont vécu ces drames, bien même les enfants de ces parents-là, se taisent, les oncles et les tantes, ils continuent à se taire sur ce sujet. On dirait que c'est tabou, qu'ils ont encore peur de risquer quelque chose. Mais
voilà, on préfère dire que ce sont des mensonges plutôt que d'assumer
mais pourquoi,
les erreurs de nos pères. Si
ouais, mais Élodie, dans les familles, il ne faut pas perdre une chose de vue. C'est qu'on leur a tout volé à ces gens-là. Moi, je sais que par exemple, mon grand-père, il a été dénoncé par sa famille. On lui a volé ses terres, on lui a volé ses moutons. Il a été en prison et en camp. C'est pas anodin, quoi, je veux dire. Donc on n'a pas envie d'être trahi de nouveau. Et quand on a vécu la trahison familiale, d'ailleurs, comme elle est expliquée aussi dans le livre par ce fameux YC qui vit la même trahison avec son fils, parce qu'il
a même
été
trahi plusieurs autres fois.
Voilà, c'est compliqué de dire les choses. Donc c'est vrai qu'on peut comprendre que ces gens, finalement, vont emporter leur secret avec eux. Néanmoins, il y aura quand même forcément des écrits qui resteront sur ces dictatures, et il y aura forcément des choses qui vont sortir.
Et ça sortira bien un jour ou l'autre.
Un jour ou l'autre, ça sortira. Et forcément, les dégâts dans ces pays... on va les voir et on vivra les trahisons familiales, les trahisons de voisinage, et puis ce silence, ces dossiers cachés et ces mémoires qu'on a muselées, elles seront forcément mises à jour très prochainement. Ça fera ce que ça fera, mais en tous les cas, ça aura le mérite de voir que même les jeunes générations continuent à chercher un petit peu ce qui s'est passé. Je lis quand même la fin de votre livre parce que j'ai bien aimé, et j'espère que ça donnera envie à nos auditeurs de courir chercher votre livre. Et ici à Bourgoin-Jallieu, on a, comme je vous l'ai dit, une communauté portugaise importante que je salue, et elle est très nombreuse. À la fin de votre livre, vous dites « J'entends d'ici des gens bien pensants prononcer la phrase « Il faut oublier le passé ». Alors si vous avez fini ce livre et que vous êtes arrivé à ces lignes en pensant encore que le passé n'a rien à nous apprendre, vous êtes une cause perdue, dites-vous. Le passé est une porte pour améliorer l'avenir. Il faudrait peut-être qu'on arrête de fermer celle-ci à double tour, par peur de ce qui se trouve derrière. Sinon, comment ne pas être réduit à avoir la même histoire se reproduire encore et encore ?
Et encore.
Et YC le dit bien. Alors... je dirais juste que c'est vrai, mon Dieu, que c'est vrai. Cette lucidité à votre âge, Élodie, ça me fait plaisir à voir. Je vous souhaite beaucoup de chance avec votre livre. J'espère que vous allez être écoutée et que vous aurez des réponses à vos questions, et qu'un jour ou l'autre, en tous les cas, si vous avez quelque chose de nouveau, ben, n'hésitez pas à revenir sur notre antenne, sur Couleur FM 97.
Peut-être une suite, qui sait ?
Une suite.
Peut-être Stratford Forever nous emmènera une suite.
Eh bien, vous nous direz, on attend. À bientôt, Élodie. Merci de votre passage sur Couleur FM 97.1.
Tout feu,
tout femme,
le magazine des femmes,
mais pas que,
sur Couleur FM 97.1 avec Véronique
et Valérie.
Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libérée.